Bruges. C'est tout.
Festival du Zest à Sorre.
Le mouvement altermondialiste, pour faire bref, dit ça a été un bouillon de culture utopique au bon sens du terme.
Daniel Ben Saïd, éloge de la politique profane.
Définissez l'utopie comme le sens non pratique du possible, c'est-à-dire comme le sentiment ou le pressentiment d'autre chose dont on n'a pas encore les clés, dont on ne connaît pas encore les contours et dont on ne voit pas comment le réaliser, mais quelque chose à quoi déjà on aspire. Et je crois que dans le mouvement alter, c'est ça, tout ce qui s'est débattu sur la décroissance, les autres formes d'énergie, les mouvements culturels en Amérique latine, c'est cette fermentation-là. Mais maintenant, et je crois que ce moment-là, on est à nouveau à une charnière, la question politique revient en force. Et il faut la prendre à bras le corps. En Amérique latine, on ne peut pas se contenter de faire des expériences locales quand on a d'un côté à tirer le bilan du gouvernement Lula au Brésil ou de l'expérience Chavez au Venezuela ou de ce qui se fait en Bolivie avec les derniers référendums, etc. On est là en plein dans le débat politique. Je ne veux pas être polémique, ce n'est pas le lieu, mais bon, ça fait maintenant... Le bouquin est sorti l'an dernier, mais moi, à cause de mes voyages en Amérique latine, ça fait maintenant 8 ans que je ferraille avec un certain John Holloway, dont le bouquin avait un titre programme, hein, « Changer le monde sans prendre le pouvoir », parce que prendre le pouvoir, c'est dangereux. Alors oui, c'est dangereux, il y a les risques bureaucratiques, etc., mais ne pas le prendre ne résout rien non plus. Et de toute façon, quand on a dit ça, on n'a rien dit sur ce qu'il faut faire aujourd'hui au Venezuela, en Bolivie ou en Équateur. Et le risque, c'est qu'en théorisant cette impuissance politique, finalement, on laisse la politique à ceux qui en font métier et parfois d'ailleurs affaire. Donc le problème, c'est vraiment un problème de réappropriation, à la fois de reconstruction d'un mouvement social, ça, on a vu renaître des forces dans les 15 dernières années, mais aussi de redéfinition de ce qu'on appelle l'échiquier ou le paysage politique qui devient urgent. Alors d'où, en un mot, pour conclure, je crois qu'on ne peut se contenter ni d'une esthétique de la résistance, même si elle a ses vertus admirables, on résiste, on refuse de capituler, on ne cédera pas, etc., qui est un discours... je crois que j'ai publié 3 bouquins dans lesquels il y a résistance dans le titre, donc c'est aussi une auto... Mais non, mais ça correspondait aux années 80. Bon, c'est vrai. On ne sait pas si autre chose est possible, mais déjà, le fait de dire non, de ne pas céder, c'est une bataille de dignité, même si on n'est pas sûr de réussir. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Pas plus qu'on ne peut se consoler par ce que j'appelle une attente théologique de l'événement. On ne sait pas comment, mais quelque chose va arriver. Oui, il arrive toujours quelque chose. C'est comme à la Samaritaine ou au Bon Marché. Bon, sûrement qu'il y a des événements tous les jours. On ne sait pas, quelque chose peut arriver. Mais en revanche, on ne sait pas quand, on ne sait pas quoi. Si on prenait en termes de théologie juive, là, pour le coup... Le Messie peut arriver, mais il faut le vouloir. Il ne viendra pas tout seul. Bon. Non, mais c'est des événements qui se préparent dans tout simplement des rapports de force, des résistances, des constructions, des luttes au quotidien. Sur le plan social, bien sûr, puisqu'on est devant une agression historique avec le gouvernement Sarkozy, mais aussi sur le plan des idées. Mais aussi sur le plan des idées, il y a une bataille de reconstruction, de reprise de confiance à mener. Bon, et je crois, après tout, qu'on en est là, y compris dans le paysage aujourd'hui de ce qui s'appelle encore la gauche au niveau européen. Bon, j'arrête là, parce que ça fait déjà beaucoup de choses. Et puis, si on veut discuter tout de suite, et puis, semble-t-il, demain...
Bonjour. Y a une chose qui m'a fait un peu sursauter, et parce que c'est une vérité immédiate. Vous avez dit il n'y a pas d'espoir d'amélioration. Vous parliez, bien entendu, des individus occidentaux du monde chrétien. En gros, c'est ce que j'ai pensé. Et vous terminez en disant que quelque chose est possible. Mais moi, quand vous avez dit « il n'y a pas d'espoir d'amélioration », j'ai pensé « mais si, mais si ». Parce que, bon, bien sûr, bon, parce que la situation est catastrophique au point de vue social, nous le savons tous. Et donc, on ne peut que. Ça, on aurait tendance à dire que ça ne peut que s'améliorer. Or, on le constate pas tous les jours. Mais il y a un aspect, au moins, c'est quelque chose de personnel. Si vous voulez, j'ai découvert un aspect de la politique que je ne connaissais pas avant. Je suis entré dans la politique par le marxisme. Donc, si vous voulez, le côté social était primordial pour moi. Et maintenant, à égalité avec les problèmes sociaux, ce sont les problèmes de la nature, les problèmes de l'écologie, le problème que nous, hommes, nous sommes dans un ensemble dont notre vie même dépend, dont notre existence dépend. Et le surgissement de ce problème, parce qu'on le voit tous les jours, partout dans le monde, toutes les pollutions, etc., etc., j'ai pas besoin de faire une revue de presse. Voilà, si vous voulez, c'est un petit peu. Je vous interroge parce que je trouve que c'est ce qui manquait dans votre discours, c'est que vous parlez de la politique entre les hommes, mais la dialectique entre les hommes et la nature, entre les hommes et leur environnement, ça maintenant, on ne peut plus du tout faire l'impasse là-dessus.
Moi, je voulais intervenir sur un autre point qui est la notion de groupe hégémonique, un petit peu avec Gramsci. L'éclatement du travail a effectivement des procès de travail. Hein, les modifications ont fait que la classe ouvrière, pour parler comme ça, a soi-disant éclaté. Et il n'y a plus, comme ça a pu exister dans la première moitié du siècle, de groupes qui sont devenus hégémoniques et qui ont été porteurs d'une vision du monde. Je mets ça en relation avec ce qui a été dit aussi sur les différentes échelles géographiques dans lesquelles on se penche et on s'implique. Et là aussi, il y a, pour avoir une hégémonie aussi qui est soumise à ces fluctuations de zones. Et justement, moi, c'était un petit peu cette approche-là, ce renouveau du politique, certes, mais il y a aussi de trouver des formes ou des groupes au niveau de la planète qui puissent peut-être incarner l'ensemble des problématiques qui ont été évoquées, et y compris dans le cadre de ce qu'a dit l'intervenant précédent.
Peut-être allez-vous trouver que mes paroles sont un peu agressives, mais d'après ce que j'ai étudié, j'ai des fois l'impression que Adam Smith et Karl Marx avaient les mêmes objectifs, mais que, comme tous les deux ont été très flous, et leurs successeurs ont tous les deux démoli leurs objectifs, y compris les dirigeants de l'Union soviétique qui se sont prétendus marxistes alors qu'ils ne l'étaient pas du tout, me semble-t-il. Et est-ce que ce n'est pas de cette façon-là qu'il y a eu un système marxiste mort avant d'être né, de même qu'il y a eu un système d'Adam Smith mort avant d'être né pour donner naissance au système capitaliste?
Donc, je sais pas, bon, pour faire rebondir, on peut prendre les trois interventions. Sur les effets, parce qu'il y a des effets réels quand même, du procès de travail, des transformations, y compris de la dimension des unités de production, ou la tendance à certaines formes de prolétarisation à domicile du travail aujourd'hui, télétravail, etc. Tout ça, évidemment, est presque aux antipodes d'une des hypothèses de Marx, j'y reviendrai après, qui est d'ailleurs une hypothèse qui est discutable. Moi, je suis parfois surpris en relisant les textes de Marx, en voyant à quel point, que ce soit dans les manuscrits de 44 ou dans le Capital même, comment il décrit la condition ouvrière en disant le travail est abrutissant, mutilant, physiquement, psychiquement, etc. Et comment des êtres mutilés quotidiennement peuvent-ils trouver les ressources d'inventer une humanité, un monde nouveau ? Alors, chez lui, il y a ce que j'appelle parfois un pari sociologique, c'est l'idée que la grande industrie développe la concentration ouvrière. Il est contemporain du développement de la grande industrie moderne, hein, pas au moment de la rédaction du manifeste communiste, parce que ce dont il parle à l'époque, c'est pratiquement l'artisanat du faubourg Saint-Antoine, les joailliers, relieurs, tailleurs, ou tapissiers, il n'y a pas tellement. Mais en revanche, pendant la période du grand boom des expositions universelles de 1852 à sa mort, on est dans la phase d'industrialisation. Et il y a l'idée que tout ça crée un prolétariat de plus en plus massif, concentré, qui va s'organiser et, en s'organisant, développer une conscience plus forte de ses intérêts. Je dirais, jusqu'à un certain point, ça a marché. Ça a donné la Deuxième Internationale avec les grands partis, les grands syndicats, etc. Alors, aujourd'hui, il y a bel et bien, et pour des raisons techniques et par des politiques d'individualisation, il suffit de voir, individualisation des salaires, du temps de travail, des assurances, etc., une vraie volonté de désorganiser et tout. Alors, est-ce que du coup ça rend impossible, mais même à l'époque de Marx, c'est jamais spontané, parce que finalement, d'un côté, le capitalisme crée du côté du travail des intérêts communs, mais en même temps, il met en concurrence permanente sur le marché du travail les uns avec les autres. Donc il y a à la fois la tendance à la solidarité, à la division et à la concurrence. D'où, pour que l'un l'emporte sur l'autre, la solidarité sur la concurrence, c'est un travail politique et d'organisation. Politique, j'entends au sens large, là. Hein. Bon, alors ça, aujourd'hui, il est peut-être plus difficile parce qu'on part de plus loin, qu'en plus, il y a les échecs et les déconvenus du XXe siècle dans les bagages. Alors maintenant, est-ce que ça, puisque c'est l'autre aspect de votre question, est-ce que ça invalide l'idée de... Est-ce qu'il faut un groupe hégémonique ? Moi, je dirais les choses autrement. C'est vrai qu'aujourd'hui est acquise, je pense, hein, grâce d'ailleurs aux apports de la sociologie de Bourdieu, etc., mais pas seulement, l'idée que les contradictions, les formes de domination qui existent dans nos sociétés ne sont pas réductibles à une contradiction principale ou exclusive qui serait le rapport de classe capital-travail. Mais il y a les rapports de genre, il y a les pratiques sexuelles, il y a les générations, il y a les héritages, y compris des préjugés raciaux, qui ne sont pas que des héritages, qui sont actifs dans nos sociétés. Et tout ça ne doit pas se résoudre forcément comme par enchantement par le fait qu'on aurait aboli l'exploitation du travail, etc. D'où l'idée que les mouvements autonomes des femmes ou culturelles ou de minorités ou majorités sexuelles valent pas seulement pour aujourd'hui, mais pour demain. Bon, maintenant, est-ce que... Mais ça n'empêche que pour moi, ça se discute, hein, le rapport capital-travail, c'est-à-dire dans la société capitaliste, irrigue et traverse l'ensemble des rapports sociaux. Il y a des intérêts communs des femmes contre les violences faites aux femmes, etc. Mais il y a aussi des divisions par rapport à la situation sociale fondamentale. Sur l'écologie, on retrouverait le même problème. Ça croise votre question. Le courant auquel j'appartiens, en tout cas si j'avais été sollicité personnellement, je n'aurais pas signé le pacte de Nicolas Hulot que presque tout le monde a signé pendant la campagne électorale. Ce que je trouve parfaitement démagogique parce que... Bon, c'est sympa. Comme alerte, je salue l'appel en question. Mais après, les mesures. Comment on peut dire on va rééquilibrer pour éviter l'émission de gaz à effet de serre, on va modifier les rapports ville-campagne. Ce qui, l'idée, n'est pas tout à fait neuve. Elle est dans le manifeste communiste de 1848. Mais comment dire une généralité pareille, de bonne intention, hein, mais quels moyens ? Comment vous voulez rééquilibrer les rapports ville et campagne sans toucher au problème de la propriété foncière, de la spéculation immobilière, etc., qui est la principale raison aujourd'hui de l'expansion urbaine ? Bon. Comment dire on va réduire l'émission de gaz à effet de serre, etc., et la crise énergétique si on ne critique pas et on ne s'oppose pas à la politique agraire du gouvernement brésilien qui est de tout miser sur les agrocarburants au détriment de l'agriculture paysanne de subvention, donc en faisant du Brésil un pays dépendant, possiblement sur le plan alimentaire, à partir du pacte éthanol avec les États-Unis. Donc on rentre dans les questions politiques. Justement, prendre l'écologie au sérieux, c'est rentrer dans les mesures, les implications politiques pour résoudre les problèmes réels. En termes de bonnes intentions, bon, alors, on a d'ailleurs un débat. Hein. Aujourd'hui, Sarkozy relance le nucléaire, disant mais on aura le problème avec l'uranium comme il y a par ailleurs. La dangerosité tricastin actualise le problème. Mais on peut tenir un débat sur il faut aller vers des énergies renouvelables, mais si, comme l'évaluent les experts, alors ils sont toujours discutables, les experts, mais le pic pétrolier se situe autour des années 2030-2035, même avec une politique très volontaire aujourd'hui d'énergie renouvelable, je doute qu'on puisse substituer. Et on rentre là dans un autre débat, qui est le débat sur la décroissance, qui est qu'il faut changer le mode de consommation et de vie. Oui, mais qui décide ? Décroissance pour qui ? Et qui décide des vrais et des faux besoins ? Pour moi, il n'y a qu'un mécanisme démocratique. Ce n'est pas des experts qui vont décider si vous devez manger du pain bio ou pas, etc. Donc on retombe sur un problème. Il faut que la décision démocratique l'emporte sur les intérêts privés, pharmaceutiques, sur Total, sur Areva, etc. Donc on revient inévitablement à un problème de choix de société dans lequel la question de la propriété, je ne l'ai pas abordé dans l'introduction, est absolument vitale. Du service public au bien commun que sont la terre, l'air et l'eau. Problème majeur d'ailleurs d'ores et déjà et des années à venir. Bon, voilà. Alors, par rapport à la question de l'hégémonie, moi je crois toujours quand même que le salariat, y compris la partie précarisée du salariat, qui n'est pas un autre monde, hein, et c'est l'envers et l'endroit du rapport d'exploitation, mais reste finalement une force, je ne dirais pas principale, parce qu'il ne faut pas classer en principale et secondaire, mais une force motrice autour duquel ou qui traverse d'autres contradictions. Et la question de l'hégémonie, on peut se la poser pratiquement. Comment expliquer que ce soit retrouvé aussi facilement, aussi spontanément, dans les forums sociaux mondiaux de Porto Alegre ou européens d'Athènes, de Saint-Denis, de Florence, etc., les mouvements écologistes, la marche des femmes, des syndicats de salariés, les mouvements de sans-papiers, les défenseurs de tortues, etc. C'est que le grand unificateur, c'est le capital lui-même. C'est que tous ces mouvements, aussi différents soient-ils, et les mouvements culturels indigènes en Amérique latine, se trouvent confrontés face à la marchandisation qui implique l'uniformisation et la destruction de leur culture. Il faut savoir que dans certains pays d'Afrique, le seul paiement du service de la dette, pas de la dette, du service, est supérieur au budget cumulé d'éducation et de santé. Et c'est le service, ça ne supprime pas la dette. Bon, dans ces conditions-là, il y a des pays qui suppriment pratiquement les enseignants, les instituteurs, et remplacent par des programmes informatisés et formatés par des multinationales de l'enseignement et de la communication, tout simplement. Donc il y a une recolonisation culturelle, y compris. Bon, ben, tout ça fait que c'est pas par une espèce de bien que la générosité soit importante, mais il n'y a pas que ça. Comment les paysans indiens ou les sans-terres brésiliens se retrouvent ensemble dans Via Campesina, ben, c'est qu'ils ont, par rapport aux OGM ou par rapport à Monsanto, tout simplement des adversaires communs. Donc je crois que la construction de l'hégémonie, c'est aussi une réponse à un adversaire qui fabrique des intérêts communs. Et là-dedans, quand on regarde les grandes mobilisations, même si dans les pays les plus avancés, il est en pleine transformation, mais il l'a toujours été, le salariat, après tout, à moins d'avoir un critère ouvriériste, c'est de se dire, la classe ouvrière, c'est l'ouvrier en bleu, c'est le prototype Jean Gabin dans La Bête humaine, sur sa locomotive, ou dans Le jour se lève, etc. Bon, non, si on regarde la place dans la division du travail, le rapport à la propriété, ou le petit bouquin que vient de sortir Alain Beer et Pfefferkorn sur les inégalités, comment se combinent les différentes formes d'inégalités d'avoir, de pouvoir et de savoir, on voit très bien qu'au sens large, il y a un prolétariat et qu'il n'est plutôt pas en diminution, bien au contraire. Bon, voilà. Maintenant, moi, je crois que le facteur Ce qui est nouveau, finalement, c'est l'idée que tout allait se fondre et s'intégrer à une espèce de grand mouvement ouvrier comme contradiction principale ou exclusive dans le début du XXe siècle. Aujourd'hui, non, il y a la reconnaissance de la pluralité des mouvements qui luttent contre l'exploitation, mais aussi contre les discriminations, et aussi pour la reconnaissance que ces mouvements autonomes ont leur raison d'être aujourd'hui et à venir, et que le problème, c'est comment organiser non pas une simple juxtaposition ou cohabitation pacifique entre ces différentes formes de lutte, mais comment elles peuvent converger autour de quelques projets thèmes forts communs. Et ça, je crois que dans les forums sociaux, on entrevoit cette possibilité-là. Enfin, qu'est-ce qui est nouveau sur le rapport à l'écologie? Je ne dirais pas que c'est le rapport à la découverte que... Puisque vous avez dit que vous êtes arrivé à la politique par Marx, les manuscrits de 44, c'est... Enfin, le leitmotiv, c'est l'homme est un être naturel, mais c'est un être naturel humain. Mais c'est d'abord un être naturel. C'est d'abord un animal. Parce que c'est un animal... on ne s'émancipe pas totalement du devoir de reproduction, c'est-à-dire y compris de transformation de l'énergie, alors qu'on appelle ça travail ou pas, etc. Qu'est-ce que le travail? C'est un métabolisme constant entre le renouvellement de la force vitale humaine et l'énergie stockée dans la nature. Donc cette dépendance-là, elle existe. Ce qui n'existait peut-être pas chez Marx, je dis peut-être, c'est l'idée des limites. Et ça, c'est un apport majeur de l'écologie contemporaine. Il y avait un optimisme de l'époque. Enfin, pour l'anecdote, je ne sais pas, ça va peut-être vous emmerder, mais on considère qu'Engels est un abruti parce qu'il a écrit l'anti-During. Outre qu'Engels est un type éminemment sympathique, mais bon, ce n'est pas l'objet. Il est pas si... Ce qu'il craignait avec la thermodynamique à l'époque, c'est que la loi de l'entropie ne nourrisse des discours religieux sur l'extinction du monde. Donc il disait, bon, l'énergie dissipée par la loi de l'entropie, on ne sait pas où elle est passée, mais un jour, on arrivera à la retrouver. C'est un problème de méconnaissance. Donc, rien ne se perd et on reste dans la physique classique. Bon, aujourd'hui, bon, non, on sait qu'il y a des effets de seuil et des effets de limite et que les dégâts sont irréparables, si vous peuvent devenir irréparables. Quand vous vous baladez il y a évidemment les dégâts écologiques, hein, la reconstitution des énergies fossiles ou même de la fertilité des sols, qui sont des décompositions de bactéries sur des centaines ou des milliers d'années, ça ne se renouvelle pas en une génération, en un siècle. Donc, on est peut-être en train d'infliger des dégâts irréversibles. Bon, ça, c'est absolument vrai. Et cette idée-là, chez Marx, elle n'est pas. Il a bien une inquiétude, hein, parce qu'il est aussi contemporain de la chimie organique de Liebig, sur le danger, justement, des fertilisants. Ça, il en parle. Mais par ailleurs, c'est un optimiste. Il croit au progrès. Il croit au progrès incontestablement. Bon, là-dessus, je crois qu'effectivement, on est rentré dans un autre rapport. Alors, sur l'héritage de Marx et de Smith, bon, ça, je ne vais pas rentrer, je ne pense pas du tout qu'ils aient la même, que Marx pense que la main invisible du marché organise une harmonie naturelle. Ça, quand même pas. Maintenant, après, le problème que vous soulevez, c'est l'héritage et la réception de ces pensées. Le problème, c'est la réception. Ce qui fait la force d'une pensée, d'un texte. Alors on dit, mais Marx, c'est un vieil auteur du 19e siècle. C'est un peu vieux. Et d'aucuns qui le trouvent vieux trouvent beaucoup plus jeune Locke, Hobbes, etc., voire Platon. Bon, non, je pense qu'à certains égards, Marx est un vrai contemporain. Un vrai contemporain parce que ce qu'il pense, c'est le capital. J'amuse mes étudiants, ils croient que c'est une blague, mais ce n'est pas une blague. Marx est le premier grand auteur de romans policiers. Si vous regardez des séries à la télé où il y a des profileurs, là, les gens qui calculent, qui essaient de comprendre le mécanisme des serial killers, Marx, il est rentré dans le cerveau du capital comme social killer. Comment ça fonctionne? Bon, comment ça fonctionne? Et il l'a fait à une époque où les rapports capitalistes et les rapports marchands étaient... Je ne dirais pas l'exception, mais ne dominer qu'une petite partie de la planète, l'Europe, les États-Unis, etc. Aujourd'hui, on est en plein dedans et à grande échelle. Alors, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il faut rester à une lecture religieuse et pieuse de Marx, ça serait contradictoire avec la politique profane, mais disons que là-dessus, je maintiens une formule qui est celle de Derrida, d'ailleurs un bouquin qui a fait date, puisqu'en 1993, Derrida a écrit donc ses Spectres de Marx, en disant que finalement, parce que l'Union soviétique s'était effondrée, parce que les orthodoxies qui avaient justement confisqué d'une certaine manière ou congelé dans une orthodoxie la pensée de Marx s'étaient effondrées, on pouvait relire avec des yeux nouveaux et dessillés ces textes-là et en faire autre chose. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y ait une vraie lecture contre une lecture falsifiée. La force d'un texte, c'est la pluralité des interprétations auxquelles il peut prêter. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut lire Marx autrement. Bon, voilà, beaucoup le font. Je vous signale, entre parenthèses, qu'il y a une entreprise qui est la grande édition Marx Engels qui s'est mise en... Qui sera sur Internet, hein, qui sera une réédition de toutes les traductions. Enfin, en France, il n'y a eu qu'une quarantaine de tomes de publiés. Dans l'édition allemande, on en est à 103 ou 104. Donc, on ne connaît que la moitié encore en français. Donc, il y a de quoi faire. Mais c'est un chantier qui s'est ouvert avec une équipe d'animation soutenue par la Fondation Gabriel Péri, etc. Donc, et qui publie des extraits sous forme de petits bouquins. Le programme de Gotha est sorti. On peut lire, mais en gros, il y a cette idée chez Derrida, c'est que, qui n'est pas une formule dogmatique, qui dit, que je fais mienne, qui dit pas d'avenir sans Marx, avec, contre, si on veut, ou à côté, mais ça fait partie, et c'est incontournable dans la pensée du monde contemporain, ça imprégnait d'ailleurs, bon, ni Bourdieu, ni tout à fait Lévi-Strauss, ni Braudel, sont concevables sans. Braudel le disait, en fait, on parle Marx comme le bourgeois gentilhomme faisait de la prose. Enfin, parfois, d'ailleurs, en ne comprenant pas ce qu'on dit, mais enfin, c'est rentré dans la langue. Voilà.
Moi, je voudrais te poser une question, c'est sur les espaces, tu en as parlé, et moi, je me pose beaucoup de questions sur la question nationale. Parce que pour parler de façon un peu expéditive, on voit bien que dans les processus de dilution de la responsabilité politique, le processus européen et le processus de mondialisation jouent un rôle éminent. Les décisions sont prises par la Commission de Bruxelles, par les conseils des ministres, l'Union européenne, par le G7, le G8, bientôt le G9, le G10, etc. Et tout ça, évidemment, rien n'est élu dans ce domaine. Tout ça est loin. On sait bien qu'en fait, c'est moins loin qu'on ne croit. Enfin, ça, quand même, ça donne ce sentiment que les choses échappent complètement. Or, un des derniers événements, si on peut dire avec beaucoup de guillemets positifs, ça a quand même été l'affaire du référendum de mai 2005, où tout d'un coup, il y a eu une espèce de, je ne sais pas comment la qualifier, de prise de conscience qu'après tout, les Français avaient peut-être le droit de décider de leur avenir. Alors, il y a pu avoir là-dedans un mélange complexe de chauvinisme, de nationalisme lepéniste, etc. Mais enfin, indéniablement, la gauche française, là, tout d'un coup, a repris forme un peu à la faveur, pas du référendum en tant que tel, pas seulement du vote dans les urnes, mais de la campagne et du débat qui a eu lieu, ce qui indique tout de même que peut-être que la dimension nationale, la culture nationale, celle qui, quand même, a ses lettres de noblesse, comme on dit, qui viennent de la Commune, du Front populaire, de la libération, de la résistance, etc. Est-ce que cette dimension-là tout dit? Ou est-ce que, malheureusement, la gauche en France a accepté un peu que l'idée de souveraineté nationale, pas seulement d'État-nation, mais de nation tout court, soit dévalorisée, devienne ringarde, réactionnaire? Et qu'il ne fallait surtout pas avoir l'air de défendre encore une cause nationale, une idée nationale, une politique nationale, etc., une culture nationale. Voilà, c'est la question que je voulais te poser, Daniel Ben Saïd. Toi, l'internationaliste.
Internationaliste, pour moi, ça reste quand même à l'époque de la mondialisation. Plus que jamais une référence nécessaire, mais l'internationalisme au XIXe siècle, quand l'idée a émergé, se distinguait, voire s'opposait au cosmopolitisme, ce qui est différent. C'est-à-dire, c'est une construction, mais dans laquelle, évidemment, on va au-delà du national, mais dans laquelle le national et les cultures qui sont liées... Il y a eu un nom de droite. Bon, on a salué la victoire du non. Moi, je m'en réjouis comme tout le monde. Hein, j'y ai participé. Mais enfin, il ne fallait pas oublier qu'il y avait quand même, dans le paquet, il y avait un nom de droite. Je crois que le nom de gauche a été la tonalité dominante. Mais là, sur quoi se faisait la différence par rapport à Le Pen? Il y a des points qui permettent de clarifier. C'était les sans-papiers, le vote des immigrés et la Turquie. Je ne sais pas si la Turquie doit adhérer ou pas à l'Europe. Mais en tout cas, je ne vois pas les arguments qui feraient de la Turquie un cas particulier. En tout cas, pas les arguments culturels. Hein. C'est un pays islamique, etc. Non. Pour moi, le seul critère, est-ce que le mouvement des femmes en Turquie, est-ce que les Kurdes trouvent qu'ils seront en meilleure situation de résistance dans l'Europe ou en dehors? Donc c'est à eux de décider, c'est pas à nous de mettre un veto. Et je crois que c'est sur des questions comme ça qu'on peut clarifier le fait qu'il y avait un non pour une autre Europe, mais non pas un non de repli nationaliste exclusif. Et je crois que ça a été une campagne, de ce point de vue-là, bien menée, qui n'était pas là-dessus suspecte. Donc le problème, c'est que les singularités ou les héritages nationaux peuvent être des points d'appui, à condition de ne pas être normatif. Par exemple, je pense que, et encore qu'elle soit aujourd'hui en discussion, et en discussion assez animée, qu'il y a une certaine idée de la laïcité dans la tradition française qui est positive, mais qui en même temps ne peut pas être normative et appliquée telle que, ou imposée telle que, à des pays dont ce n'est pas du tout la tradition. Mais puisque ça existe en France, c'est au moins un point d'appui pour poser le problème, et pour mener des batailles sur tel aspect ou tel autre de la laïcité, à condition de bien les mener, de ne pas mettre la chose où il ne faut pas, à mon avis, je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mais faire du foulard islamique le symbole de l'intransigeance laïque, c'était une énorme connerie. Bon. Mais bon, c'est quelque chose dont on débattra encore longtemps. Voilà, ben je propose qu'on en reste là. Hein. Merci.